Chacun de vous a reçu le petit feuillet jaune. Vous avez donc sur ces pages l'horaire de cette retraite. Il y a encore quelques personnes qui doivent arriver, mais comme nous le faisons habituellement, le sujet même de la retraite, nous le commencerons demain matin pour que personne ne soit frustré et pense qu'il n'a pas entendu une partie du message que Dieu a mis sur nos cœurs. Alors, mes amis, nous déclarons ouvert cette retraite de juin 1994. Elle ne devait pas avoir lieu. Et ce sont nos sœurs qui ont eu cette foi que la retraite de novembre de l'année dernière n'était pas la dernière. Elles ont prié, et je leur rends ce témoignage. Habituellement, nous devons une année à l'avance retenir cette maison. Elles ne m'ont rien dit à moi-même, mais dans leur cœur, elles ont retenu trois périodes de l'année 1994, alors qu'il était très possible que je sois mieux qu'ici, puisque être auprès du Seigneur, cela est de beaucoup meilleur qu'être sur cette terre. Mais d'un autre côté, si nous devions vivre, nous savons ce que Paul disait, il en vaut la peine. Alors voilà, quand j'ai su qu'à ma dernière analyse, il n'y avait pas de cellules cancéreuses, ce qui n'était pas le cas à l'avant-dernière, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais continuer de travailler. Mais je ne pourrai pas faire les retraites puisque je n'ai pas retenu les dates. Alors j'ai simplement téléphoné à la supérieure, sœur Suzanne Colette, qui nous reçoit depuis 8 ans, mais avant il y avait une autre sœur. Nous avons commencé en 1980 ces rencontres. Eh bien, sœur Suzanne me dit, quand je lui téléphone, après avoir connu le résultat de l'analyse, elle me dit, « Oh, monsieur Racine, votre téléphone, c'est mon rayon de soleil. » Je dis, « Comment ?» C'est un samedi matin. « C'est mon rayon de soleil. » Je dis, « Pourquoi ?»« Mais vous allez bien ?» Je dis, « Bien, oui, assez bien. » Mais elle dit, « Mais nous vous avons retenu les dates. Est-ce que ça vous plaît en juin, en octobre ?» Et en novembre, elles avaient eu cette foi, elles avaient retenu ces dates et refusé le second, évidemment. Alors j'ai trouvé ça magnifique. Alors que voulez-vous que je fasse? Ça allait marcher, c'est un ordre de marche. Alors voilà, nous sommes réunis en cette belle journée de juin. Mais je ne sais pas si j'étais vraiment troublé quand j'ai écrit la date de la retraite au tableau noir. Il paraît que j'ai mis 1944 sans m'en rendre compte. Je me suis rajeuni de 50 ans. Peut-être c'est à cause du débarquement auquel j'avais pensé, 1944, c'est le cinquantenaire, etc. Comme je viens des vieux pays. Alors voilà, j'ai corrigé, quelqu'un a eu la gentillesse de me montrer mon erreur. Et je suis content quand on me montre mes erreurs. Hein. Alors, pour ceux qui connaissent un peu comment nous commençons nos retraites, eh bien, ils savent que ce n'est pas moi qui vous accueille ici. mais que nous cherchons toujours à être accueillis vraiment par Jésus et à entendre dans nos cœurs une parole de Jésus. Parce que moi, j'ai aussi bien le besoin d'être accueilli que vous-même. Alors, qui est-ce qui peut vraiment vous accueillir ici en vous promettant sa bénédiction? Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Vous avez besoin d'être béni, et moi aussi j'ai besoin d'être béni. Alors, je me suis tenu devant Dieu en pensant à ces premiers moments de cette soirée et les supplier de me donner une parole qui corresponde à vos besoins. Et des fois on est surpris de ce que le Seigneur peut nous dire. Mais comme il parlait, j'ai noté cette parole, et vous pouvez prendre ici vos petits feuillets jaunes, et à la page 1, vous avez à 20h30, rassemblement dans la grande salle, nous y sommes, avec un quart d'heure de retard, évidemment, comme je viens de Suisse, on nous dit toujours qu'il y a en Suisse un canton où on est toujours un quart d'heure en retard, et on appelle ça le quart d'heure vaudois. Alors ici, on a introduit le quart d'heure vaudois, on a commencé avec un quart d'heure de retard sur notre horaire, peu importe. La parole d'accueil de Jésus que j'avais reçue, elle se trouve dans Matthieu, vous avez tous vos Bibles, je pense, parce que si vous avez lu le petit feuillet rose qui faisait l'invitation et qui annonçait la reprise de ces retraites, il est bien souligné qu'il faut venir à une retraite biblique avec une Bible. Il est possible que quelqu'un n'ait pas de Bible ce soir, eh bien, qu'il n'ait pas honte de le dire simplement, et nous lui en prêterons une. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas sa Bible ou une Bible? Alors, tu peux demander à ma femme, que je vous présenterai tout à l'heure, qu'elle vous donne une Bible. Donc, c'est au chapitre 14 de Matthieu, le verset 27e. Et je vous ai mis quatre traductions qui sont toutes fidèles. Mais sur le tableau, j'ai gardé la traduction d'André Chouraki, que je connais personnellement, et qui est l'ex-adjoint au maire de Jérusalem, et qui a traduit non seulement l'Ancien Testament de l'hébreu en français, mais tout le Nouveau Testament. Et lui, il a donné la traduction que vous avez au tableau noir de ce verset 14, de chapitre 14 de Matthieu, verset 27, que vous lisez, et j'aime bien le remettre dans son contexte, mais « Confiance, c'est moi, n'ayez pas de peur. » Ça, c'est la traduction œcuménique de la Bible. Second, Louis Second, la version que la plupart d'entre vous possèdent, je pense, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Je ne sais pas si quelqu'un a un peu peur dans cette salle. Peut-être qu'il est venu pour la première fois, puis il se demande qu'est-ce qui va se passer. Eh bien, c'est pas moi qui vous le dis, c'est Jésus que nous croyons vivant, ressuscité au ciel, et qui connaît tous les sentiments de nos cœurs. Et c'est lui qui vous dit, parce qu'il lit dans vos pensées, je suis là, c'est moi. N'ayez pas peur. Alors, Chouraki a traduit « courage ». Est-ce qu'il fallait du courage pour venir à cette retraite? certains sont venus de loin, hein, il fallait envisager tout ce parcours en voiture. Il peut y avoir des accidents. Donc, vous êtes là, le Seigneur vous a préservé, vous avez manifesté un certain courage de laisser peut-être vos proches, vos enfants, votre mari, votre femme, vous en êtes séparés, un certain courage, oui, mais vous avez répondu à son invitation. Alors, ce que Chouraki a traduit, je l'aime beaucoup, et on voit bien qu'il est d'origine juive. Il a traduit « courage, je suis ». Et littéralement, c'est vraiment cela. Quand Jésus, dans le Nouveau Testament, dit « c'est moi », et vous savez qu'on le trouve en tout cas deux fois, ici au chapitre 14, comme nous allons le voir, de Matthieu, il dit « courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Chouraki a dit « ne frémissez pas ». J'aime beaucoup cette impression, cette expression aussi. Ne frémissez pas, au lieu de n'ayez pas peur, mais ne frémissez pas, il n'y a rien à frémir, restez dans la paix. Et puis, John Nelson Darby, qui suit de très près le texte grec, a traduit « Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez point de peur ». Mais je reviens sur ce « je suis ». Quand Jésus a dit « c'est moi », il a dit au fond « je suis ». Quel « je suis » ? Quel est celui qui s'est appelé dans l'Ancien Testament « je suis » en réponse à une question de Moïse ? C'est Dieu, hein ? Dans le buisson enflammé, dans le buisson ardent, où l'Éternel apparaît à Moïse, eh bien, Moïse lui demande, mais tu veux m'envoyer vers le Pharaon, tu veux m'envoyer vers mon peuple, et on va me demander ton nom. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Tu diras, je suis celui qui suis. Je suis m'a envoyé vers vous. Eh bien, dans ce « c'est moi » dont je vous parle, c'est exactement le mot « je suis ». Et dans une autre occasion, dans le chapitre 18 de Jean, si vous voulez lire ce chapitre, vous trouverez Jésus dans la dernière nuit et qu'il a passé avec ses disciples. Vous le trouvez dans un jardin. C'est quel jardin? Le jardin de Gethsémané. Et tout à coup, la bande de soldats, conduite par qui? Par un des propres disciples de Jésus, par Judas, et qui l'a vendu pour 30 pièces d'argent, le voilà, et qui le voilà qui s'approche, et Jésus se lève, précède ses disciples qui ont peur, et il demande aux soldats, qui cherchez-vous? Et on lui répond, Jésus le Nazaréen. Alors Jésus dit, c'est moi. Et c'est la même traduction, c'est je suis. Et alors, qu'est-ce qu'il arrive à ce moment-là, si vous avez un peu de mémoire, il tombe par terre. Parce que c'est le « je suis » du Sinaï. Il vient de prononcer ces paroles extraordinaires, « je suis ». C'est la même personne qui a parlé au Sinaï et qui a donné la loi. Alors, on comprend que Chouraki et il voulut conserver littéralement cette expression. et je trouve ça très beau. Courage, je suis. N'ayez pas peur. Alors maintenant, vous pouvez prendre à la page 2. Écoutez, et vous comprendrez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ce qui nous conduit. Nous traversons des temps difficiles, mais avant, pour que vous puissiez bien saisir ces paroles de bienvenue de Jésus, on va lire dans le chapitre 14 le contexte. 14 de Matthieu. Dans ce chapitre 14 de Matthieu, on apprend que le roi Hérode, dans sa cruauté, a fait décapiter Jean-Baptiste. D'une façon tout à fait ignoble. Et nous lisons qu'au verset 13e, on vient d'apprendre la chose à Jésus. Les disciples de Jean, verset 12, vinrent prendre le corps de Jean-Baptiste et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Verset 22e. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renvoyait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était au milieu de la mer. Elle était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Voilà le verset dans son contexte. Courage, je suis, n'ayez pas peur ou ne frémissez pas. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alors, mes amis, je reviens à ma page jaune, page 2, et je commence simplement par ces mots, alors que nous traversons des temps difficiles. Est-ce que c'est vrai ou faux? Aujourd'hui, en 1994, au mois de juin, donc le début de juin, est-ce que nous traversons des temps difficiles? Que ce soit au Québec ou dans le monde. Oui. Et on peut dire que la barque de notre vie connaît des vents contraires. C'est pas pour tous la même chose, hein. Mais enfin, dans chacune de nos vies, il y a des vents contraires. Et l'on se pose des questions. L'on a peut-être peur du lendemain. Et même si l'on a une connaissance de Jésus, on prend les difficultés que nous traversons comme étant insurmontables. Et si même nous pensons à Jésus, c'est plutôt pour nous quoi? Un fantôme. Qu'est-ce que Jésus peut bien nous faire? Vous entendez cela continuellement? Il ne va pas me payer mon logement. Il ne va pas me donner ce qui est nécessaire pour mon panier de provisions. Jésus, Jésus. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens baptisés, qu'ils soient catholiques ou protestants ou évangéliques même, eh bien pour beaucoup, Jésus, ce n'est pas beaucoup plus qu'un fantôme. Et alors, je vous pose cette question. Vous êtes venu ici. Est-ce que Jésus était dans votre barque? Ou bien est-ce que vous aviez l'impression que vous voyagez sans cette présence merveilleuse qui nous donne la paix, la joie au travers de toutes les circonstances. Jésus, aujourd'hui, 3 juin 1994, est-il hors de vous comme un fantôme ou bien est-il dans votre barque? Prêt à calmer la tempête et à vous donner la délivrance. Eh bien, ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'il voulait vous accueillir, en tout cas ici. Même si vous avez eu le sentiment d'être seul, il vous accueille et il vous dit courage. Lui connaît vos circonstances. Je suis. ne frémissez pas. Il n'y a pas une épreuve que vous traversez maintenant que lui ne connaisse pas. Est-ce que vous allez croire que c'est Jésus qui vous accueille ici? Voyez-vous, quand Jésus était sur la terre et qu'il a voulu prendre un dernier repas avec ses disciples, il lui fallait un lieu pour se rassembler avec ses disciples. Pour célébrer cette fête de Pâques. Est-ce que Jésus avait une synagogue à lui qu'on lui prêterait pour accueillir ses disciples? Non. Est-ce que Jésus avait une maison où il pouvait réunir les siens? Non. Il avait pu dire: les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel des retraites, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Alors les disciples savaient bien la chose. Et un peu avant Pâques, ils ont dit au Seigneur, vous trouvez ça dans l'Évangile, « Où veux-tu que nous préparions la Pâque ?» Et vous avez ça dans le chapitre 13 de Marc, la réponse de Jésus, ou chapitre 14 de Marc. Verset 12e, le premier jour des pains sans levain, lorsqu'on sacrifiait la Pâque, ses disciples lui disent « Où veux-tu que nous allions préparer ce qu'il faut afin que tu manges la Pâque ?» Et il envoie deux de ses disciples et leur dit « Allez à la ville et un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est mon logis, où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Quand Jésus est dans un logis, c'est son logis. Si Jésus est ici, ce lieu est sa maison. Et vous vous trouvez ce soir dans sa maison, qui est un lieu providentiel qui nous permet de nous réunir. Ce n'est pas une église qui porte un nom. Nous sommes ici, bien sûr, au manoir d'Youville, nous en dirons quelques mots, mais nous sommes accueillis par Jésus. Verset 15, « Lui vous montrera une grande chambre garnie, toute prête. Apprêtez-nous là ce qu'il faut. » Et vous voyez, les disciples s'en allèrent en ville, et ils trouvèrent tout comme il leur avait dit. Et ils apprêtèrent la Pâque. Eh bien, chaque fois que nous venons dans cette maison, j'ai vraiment le sentiment que nous sommes dans un lieu providentiel qui nous a été préparé. Et je vous ai dit en quelques mots comment les sœurs de la charité, dites sœurs grises, ont eu à cœur que ces conférences continuent et qu'elles ont tout fait pour que nous puissions nous réunir dans ces jours du mois de juin. Je trouve cela merveilleux. Alors ce soir, je vous propose, en attendant l'arrivée des derniers participants, de lire ensemble, pour préparer cette semaine, des textes qui vont vraiment nous occuper dans les conférences qui vont suivre. Nous parlons toujours d'immersion biblique et notre seul but, c'est que vous puissiez apprendre à connaître la Bible et aimer cette parole. Alors ce soir, je vous propose la simple lecture du chapitre premier de la Genèse. Oh, vous me direz, mais alors, j'espère que vous êtes de ceux qui lisent la Genèse. Hein. C'est le dernier livre de la Bible? Non, il ne semble pas. Hein. C'est le premier livre de la Bible et c'est le premier chapitre. Et on ne se lasse pas de lire ce merveilleux texte. Et nous ferons ensuite la lecture du chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens qui va nous donner la clé pour que nous puissions comprendre comment nous pourrons comprendre les merveilles de ce chapitre premier dont nous vous parlerons demain. Nous allons nous recueillir un instant dans la prière. Oh Dieu, nous sommes émus ce soir en pensant que tu nous permets de relire ce premier chapitre, ce premier livre attribué à Moïse. Et nous voulons te demander que tu nous donnes de le lire avec révérence et avec foi, et que nous soyons préparés pour que demain, par la puissance de ton esprit, tu fasses parler ce texte et que tu nous montres les vérités qu'il contient et qui ne sont nullement dépassées. Que ta grâce ouvre nos cœurs et illumine notre intelligence et que nous puissions dire tes paroles se sont-elles trouvées, nous les avons mangées, elles ont fait l'allégresse et la joie de notre cœur. Nous ne frémissons plus. Nous savons que c'est Je suis qui nous parle. Amen. Vous avez vos Bibles ouvertes à cette première page de la Genèse. Et j'aime que vous suiviez dans vos Bibles parce que le texte entre par vos yeux et vous l'entendez par vos oreilles. Et nous savons que dans le dernier livre de l'Écriture, dans l'Apocalypse, il est dit « Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent, qui comprennent les paroles de ce livre. » Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et je souligne tout de suite que c'est la première fois qu'on trouve le mot esprit. L'esprit de Dieu, c'est le premier verset de la Bible où il est parlé de l'esprit, l'esprit de Dieu. Et nous savons que le premier verset qui nous présente une vérité est d'une importance capitale. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa des grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance leur espèce, selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela a été bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un jour, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je leur donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour toute œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Eh bien, mes chers amis, peut-être que quelques-uns se sont dit, mais enfin ce récit, on le connaît. Je veux croire qu'il vous a pourtant parlé. Et maintenant, nous lisons au chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens. Vous ne cherchez pas dans l'Ancien Testament, hein. C'est dans le Nouveau Testament, après les Évangiles, vous avez les Actes des Apôtres, l'épître aux Romains, et ensuite, la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Chapitre 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ou je pourrais tout aussi bien dire lorsque je suis venu parmi vous ici, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Ce premier chapitre de la Genèse a-t-il été pour vous, lorsque vous l'entendiez ce soir, le témoignage de Dieu, ou une vieille histoire dépassée? Verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous allez me dire, mais on n'a rien dit au sujet de Jésus-Christ. Mes amis, attendez demain matin. Et vous verrez si en lisant le premier chapitre de la Genèse, nous n'avons rien lu au sujet de Jésus-Christ. Oh, je comprends alors que vous ne lisiez guère la Bible. Ce n'est pas un livre qui vous parle alors. Verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Mais voilà, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Courage, ne frémissez pas, je suis. Mais quant à notre état physique, bien avant nous, l'apôtre Paul a su ce que c'était de sentir sa faiblesse. Verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre part, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Nous ne comprendrons jamais ce premier chapitre de la Genèse sans l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Et bien que dans cette soirée, vous puissiez redécouvrir ce qu'est la parole de Dieu dans toutes les pages de l'Écriture sainte. Et je dirais particulièrement, comme vous le voyez à la fin de cette page 2 de la feuille jaune, dans ce premier livre de la Genèse. Je suis toujours navré quand j'entends des personnes me dire qu'elles ne sont pas nourries dans leur église, elles ne sont pas nourries dans leur foyer. Or, quand vous lisez le livre de la Genèse, ce premier livre, et je ne m'illusionne pas, je sais très bien qu'il n'a pas beaucoup d'importance pour certaines personnes, mais cela nous montre bien dans quel état notre pauvre chrétienté se trouve. Parce que savez-vous, c'est dans la Genèse que nous trouvons, au fond, l'essentiel de toutes les vérités, aussi bien du peuple juif que du christianisme. Ces vérités sont contenues déjà en germe dans le livre de la Genèse. Elles sont développées au travers de la Bible. Elles trouvent leur accomplissement final dans quel livre ? L'Apocalypse, le dernier livre, n'est-ce pas ? Mais vous trouvez ces vérités essentielles, et je vous en ai cité quelques exemples. Si vous voulez connaître quelque chose de Dieu, il faut commencer par la Genèse. Au commencement, Dieu. Si vous voulez connaître quelque chose de sûr, et non pas les hypothèses scientifiques au sujet de la création, il vous faut lire la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'est pas dit quand. C'est pas ça qui compte pour nous. Vous pouvez laisser les savants mettre tous les milliers et les milliards d'années qu'ils veulent, ça ne contredit pas la Genèse. Il y a eu un commencement. Et au commencement était qui ? Dieu. Maintenant, quand on nous dit, mais au sujet du mariage, il n'y a rien dans la Bible. Misère. Dans la Genèse, il y a quelque chose au sujet du mariage. Et Jésus lui-même, dans le chapitre 19 de Matthieu, quand on vient lui poser une question au sujet du divorce, il répond, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et Jésus cite lui-même ce que nous allons étudier ici, dans la suite, le chapitre 2 de la Genèse, où Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Il n'a pas dit, je lui ferai 3-4 femmes, ou 90, ou 1000 si vous voulez imiter Salomon. Il n'y a rien au sujet du mariage. Vous n'avez pas lu la Genèse, alors. Au sujet du péché. Mais le péché, qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché ? Moi, j'ai fait de mal à personne. Le péché. Vous avez cela dans la Genèse. Maintenant, le diable. Vous n'y croyez pas. Il y a des théologiens qui ont écrit toutes sortes de choses. Liquidation du diable. Un père jésuite allemand. Liquidation du diable. On ne peut plus croire au diable. C'est l'infantilisme. Croire au diable, c'est pas en lui qu'on va croire. On croit en Dieu. Mais le diable existe. Et si vous ne le voyez pas, il faudra que le Québec devienne le Rwanda. Et nous n'en avons pas le désir. Vous croyez que ce n'est pas diabolique ce qui se passe dans un pays dont on a tant parlé, ce Rwanda, il y a une quarantaine d'années. Je voyais des missionnaires du Rwanda qui nous disaient « Il y a un merveilleux réveil au Rwanda. Le Rwanda va révolutionner l'Europe. » Puis qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc ce Rwanda qui a connu en grande partie l'Évangile, qui est-ce qui mène la barque au Rwanda? Qu'on s'entretue, et non seulement qu'on se tue, mais qu'on se découpe en morceaux, et qu'on vende la viande humaine dans les boucheries. C'est Jésus qui a voulu tout ça? Mais Jésus n'est pas là. Non, non, Jésus, on n'en parle pas. Il n'est pas dans le monde, Jésus, non, c'est pas vrai. Et il est si peu dans les chrétiens. Quand les chrétiens pensent que Jésus est un fantôme, alors comment voulez-vous que le monde croie en la puissance de Jésus? Mes amis, nous avons besoin que Dieu nous parle très fort dans cette fin de semaine et que son esprit change notre mentalité et que nous devenions de ces barques dans lesquelles le Seigneur se trouve. Et vous, on l'adore, en disant, il est là, il peut tout, il sait tout. Et que nous ayons un témoignage vraiment positif. Et que nous n'ayons plus toujours des plaintes au sujet de la vie difficile et d'une situation presque inexplicable. Dieu est là, Jésus est là, mais où? Pas dans le monde, non? Le monde l'a rejeté. Le monde l'a crucifié, le monde ne veut pas de Dieu. Mais les croyants, s'ils le veulent, ils peuvent être remplis de cette merveilleuse présence, de la plénitude du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on le demande? Le Seigneur a dit qu'il donnerait le Saint-Esprit à ceux qui le lui demande. Oh, mais je l'ai. Je suis sauvé. Mais qu'est-ce que c'est qu'être sauvé? C'est se plaindre du matin au soir? C'est de parler de toutes nos misères? Alors que le monde voudrait entendre de nos bouches quelques bonnes nouvelles. Le diable mène le monde. Et quant au jugement, vous savez que le monde va vers son jugement. Eh bien, dans la Genèse, nous avons le jugement, mais nous avons aussi une merveilleuse promesse. La promesse d'un libérateur. Nous avons aussi le moyen de nous approcher de Dieu pour être pardonnés de tous nos péchés. Le sacrifice est enseigné dans la Genèse. Et même alors que nous mourons, nous avons la résurrection dont il est parlé dans la Genèse, et puis aussi l'enlèvement. Alors ne me dites pas que vous ne pouvez pas être nourris. Et j'ai cité ensuite, parmi les hommes cités dans la Genèse, on peut en trouver 7 dont la vie illustre une vérité particulière. Parce que c'est ce que j'aime dans la Bible vous présente des vies d'hommes qui ont été choisis par Dieu et chacun de ces hommes a illustré une vérité particulière. Ce n'est pas simplement une doctrine, mais on voit telle doctrine vécue dans un homme. Ainsi, il y a eu Abel et la doctrine de l'expiation dans la vie d'Abel. Il a compris qu'il pouvait s'approcher de Dieu, non pas en apportant comme Caïn les fruits de la terre, mais les fruits de son troupeau, un agneau, le sacrifice. Enoch, il marche avec Dieu. Et qu'est-ce qui lui arrive? Il est enlevé auprès du Seigneur sans passer par la mort. Noé, il doit passer à travers le déluge, mais pour traverser le déluge, il est à l'abri dans quoi? Dans l'arche. Et nous savons qu'en Israël, dans les jours qui viendront, le peuple d'Israël devra passer par une terrible tribulation, mais il y aura tout un résidu qui sera sauvé au travers de ces tribulations. Ils seront préservés comme l'a été Noé dans son arche. Puis, il y a Abraham, qui vivait dans l'Irak et qui a été appelé par Dieu. Au milieu du paganisme, Dieu l'appelle et le forme. Donc, c'est la vérité de l'élection, de la prédestination. Il y a Isaac qui devait mourir et qui est reçu par Abraham par une sorte de résurrection. Donc la résurrection, elle est déjà dans la Genèse. Quant à Jacob, eh bien là, vous voyez ce que nous sommes. Quand nous apprenons à nous connaître, nous nous disons comme je ressemble à Jacob. Jacob, un homme tordu. Vous avez déjà réalisé que vous étiez tordu? Que nous sommes tous des tordus? Et c'est épouvantable si on se regarde soi-même. Eh bien, la vie de Jacob est une image de ce qu'est la chair en nous. Ce que la chair est capable de faire, tromper, trafiquer, faire tout au monde, Jacob. Et nous sommes des Jacob. Mais Dieu a aimé Jacob. Et il vous aime, tout tordu que vous êtes. Et que je suis. Et voilà pourquoi j'ai eu à cœur de vous parler pendant cette retraite de la présence de l'Esprit de Dieu à la lumière des Écritures. Parce que si dans l'année précédente nous avons parlé de la sainteté, de la sanctification, peut-être que plusieurs sont un peu déçus et découragés parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas arrivés. Il n'est pas question que vous soyez arrivés. Il est question que vous connaissiez la seule puissance qui peut faire de vous des saints. Et c'est la puissance du Saint-Esprit. Alors nous nous arrêtons là pour ce soir. Mes chers amis, j'aime à vous saluer ce matin au nom du Seigneur Jésus, celui qui est notre Sauveur, que nous reconnaissons, nous l'espérons, comme notre Seigneur, et qui devient chaque jour davantage, car il ne peut en être autrement si l'on marche avec lui, notre bien-aimé, le bien-aimé de notre vie, celui qui veut nous remplir de sa paix dès le début d'une journée, quelles que soient les nouvelles que nous avons pu peut-être entendre et qui nous auraient troublés, de sa joie, quelles que soient les tristesses qui peut-être s'annoncent déjà, car en lui, nous ne perdons pas la joie, car nous croyons éperdument ses paroles. Il a dit à ses disciples, « Personne ne vous ôte votre joie, ni les hommes, ni les circonstances. » Oui, nous vous saluons en Jésus-Christ, qui est notre lien. Et quel lien ! Puisque nous savons que c'est par lui que nous connaissons le Père. En dehors de Jésus-Christ, il n'existe pas de connaissance personnelle et réelle de Dieu. Et en dehors de Jésus-Christ, on ne se connaît pas non plus soi-même. C'est dans la lumière du Christ que nous apprenons à nous connaître, et que cette connaissance est si précise qu'elle arrive à nous pousser à désirer renoncer à nous-mêmes. Non pas s'admettre soi-même, mais quand je m'admets moi-même, je n'en peux plus de moi. Et je suis porté à désirer, à renoncer à moi-même. Et au fond, c'est cela le grand message de l'Évangile. C'est cela que Jésus est venu nous dire. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas être mon disciple. Il n'y a pas de vrai disciple sans ce renoncement à soi. Or, c'est tout le contraire de la philosophie et de la psychologie du jour. Tout est centré sur le moi, sur l'ego, alors que Jésus a dit non, il faut renoncer à soi-même. Non pas renoncer à des choses, mais renoncer à soi. Et tant qu'on n'a pas renoncé à soi, on est vraiment en danger. Vous connaissez l'apôtre Pierre, n'est-ce pas? Il pensait avoir renoncé à tout. Et il disait au Seigneur, mais que nous arrivera-t-il? Nous avons tout quitté pour toi. Jésus ne lui a pas dit non, tu n'as pas tout quitté. Il l'a laissé dire. Il y a des choses que le Seigneur laissait dire à ses disciples. Il leur apprendra progressivement, plus tard et par certaines expériences. Et quand cet apôtre Pierre, le grand confesseur de la foi, qui avait dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », eh bien, quand il a dit à Jésus, regardant ses autres disciples, « Quand même tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. » Et quelques heures après, ce pauvre Pierre, si sûr de lui, allait renier avec imprécation celui qu'il avait appelé son maître et qu'il avait confessé comme le Christ, le Fils unique de Dieu. Voilà ce qui nous arrive quand on pense qu'on peut compter vraiment sur soi. Nous comptons sur lui. Et quel bonheur de pouvoir, comme l'apôtre Paul, dire, ben ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors il n'y a plus de gloire pour l'homme, toute la gloire est pour le Christ. Et voyez-vous, c'est de cela que le monde a besoin. Non plus de voir des chrétiens qui se glorifient de leurs œuvres, de ce qu'ils ont fait, de leur charité, de leurs dons, mais des hommes et des femmes qui s'oublient eux-mêmes et qui donnent toute gloire au Seigneur. Voyez-vous, quand on a parlé avec le Seigneur, dès le matin, eh bien, comme Moïse, qui ne savait pas que son visage rayonnait, quand il descendait de la montagne, eh bien son entourage a vu que son visage rayonnait. Lui ne le savait pas, mais il avait parlé avec le Seigneur. Ayant parlé avec le Seigneur, eh bien, son visage rayonnait. Quand on commence la journée avec Jésus, il y a un rayonnement sur le visage, quels que soient les traits que nous ayons reçus à la naissance. Il y a une beauté qui vient de Dieu, même sur un visage taillé à coups de hache. Peu importe, ce qui compte, c'est d'avoir parlé avec lui. Alors, hier soir, nous avons été accueillis par le Seigneur lui-même qui nous a dit de ne pas avoir peur. Vous êtes venus ici, ne sachant peut-être pas très bien ce qui allait se passer, où vous alliez, oui, vous alliez au manoir Diouville qui est une des œuvres qui ont suivi cette chère Marguerite Duville, dont nous aimons à rappeler le vivant souvenir, née en 1701 à Varennes, décédée en 1771 à Montréal, après avoir traversé toute une vie qui me l'a fait aimer, parce que c'était une femme qui a été orpheline, qui a souffert dans son mariage, qui a eu des enfants, qui en a perdu, qui est devenue veuve, et qui ne s'est pas abandonnée, mais qui s'est accrochée au Seigneur Jésus, et qui a pu accomplir, parce qu'elle avait une foi entière dans le Seigneur et dans son Père qu'il était venu révéler, eh bien, elle a pu traverser la vie et fonder aussi cet ordre des Sœurs de la Charité qu'on appelle Sœurs Grises, parce qu'elles ont accepté cette humiliation, puisque quand on fait quelque chose pour le Seigneur, on est critiqué. Et que disait-on des Sœurs de la Charité? Pourquoi était-elle grise? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'elle s'émigrait. Qu'elles étaient grises. Et Marguerite Duville a voulu que ce nom leur reste. C'est beau. Alors, il est dit, elle se repose de ses travaux, comme les croyants, et leurs œuvres les suivent. Et c'est une des œuvres ici qui suit Marguerite Duville et son témoignage. Alors vous êtes dans cette maison qui pour nous est vraiment, comme je vous le disais hier soir, une maison providentielle. Nous n'avons pas de maison à nous, mais le Seigneur permet que nous puissions jouir de cette maison et nous en bénissons Dieu. Maintenant, il y en a qui sont venus ici en se demandant, mais qu'est-ce que c'est que ce groupe Mahanaïm? C'est un nom hébreu. Vous en trouvez la signification dans l'Écriture, au chapitre 32 du livre de la Genèse, toujours dans la Genèse, au verset 1 et 2, nous voyons Jacob qui revient d'un temps d'exil et qui a peur de rencontrer Ésaü, parce qu'il avait fui Ésaü après l'avoir trompé, après avoir trompé son père. Et il revient 20 ans après avec toute une foule d'enfants et ses 4 femmes. Et tout à coup, on lui dit qu'Ésaü vient à sa rencontre avec 14 hommes. Alors il a peur, c'est toujours ça. Il a peur d'être massacré. Mais tout à coup, alors qu'il est dans cet état de peur, il voit 2 cohortes d'anges qui le rencontrent. Alors, il tombe à genoux et puis il appelle ce lieu Mahanaïm, c'est-à-dire c'est le camp de Dieu. Il voit ces anges et dit, mais c'est le camp de Dieu. Eh bien, Mahanaïm désire être ici le camp de Dieu. Nous nous rencontrons en Dieu parce que nous avons accepté Jésus. Et tous ceux qui ont accepté Jésus, qui ont reçu sa parole, qui reçoivent sa parole, il est dit que Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, si vous l'avez reçu, qu'est-ce que vous êtes? Enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous sommes les uns pour les autres? Des frères et des sœurs, pas des cousins éloignés. Et je crois que c'est là le premier témoignage. On ne peut pas avoir toujours toutes les mêmes pensées, mais si on a déjà réalisé qu'au fond, nous sommes des frères et des sœurs en Jésus-Christ, en marchant ensemble, en nous nourrissant de cette parole, eh bien, le Seigneur nous bénira. Et alors ce matin, en priant, je lui ai demandé une parole, un mot d'ordre pour nous, et si hier soir, nous avons été exhortés à ne pas avoir peur, à avoir du courage, parce que je suis, le je suis de l'Exode, déjà qui parlait à Moïse, le je suis de l'Ancien Testament, c'est le je suis du Nouveau Testament. Jésus, quand il disait « c'est moi », il voulait dire « je suis ». Et puisqu'il est là, nous n'avons pas à avoir peur. Et alors, ce 4 juin, le mot d'ordre, se trouve dans 2 Timothée 1, verset 7, « L'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides ». Il paraît que certains ont été un peu choqués, parce que hier soir, j'ai dit que vous ne deviez pas être timide, mais je n'ai rien inventé, parce que littéralement, dans Apocalypse, chapitre 21, verset 9, après avoir parlé des sauvés, de ceux qui viennent au Seigneur et qui boivent à l'eau pure de la grâce, eh bien, sont sauvés pour l'éternité. Mais il est dit ensuite, quant aux timides, beaucoup de traductions disent quant aux lâches, et puis il y a toute une énumération, et il est dit, leur part sera dans les temps de feu et de souffle. Voyez-vous, quand on est en face de la parole, il faut se faire une certaine violence. Est-ce que ce sont mes sentiments qui vont compter, ou bien est-ce que c'est la parole de Dieu? Et Jésus disait, le royaume de Dieu, il est pris par violence. Et ce sont les violents qui le ravissent. Il faut se faire violence. C'est une sainte violence. Et nous ne sommes pas timides. Nous prenons position pour Jésus-Christ. Jésus ne perd personne. Il disait, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas, mais c'est que nous ne voulons pas. On a une volonté, arrêtez, nous ne voulons pas. Et Jésus pleurait devant cette indifférence, ou alors cette timidité. Eh bien, que le Seigneur parle à nos cœurs, et ça, c'est un verset, j'avais peut-être 13 ans, quand je l'ai vraiment compris, que je ne devais pas être timide pour le Seigneur. Les gens se glorifient de tant de choses. Pourquoi moi je n'oserais pas dire quel est le nom de mon Sauveur? Ce n'est pas mettre le nom de Jésus à toutes les sauces, mais quand on nous demande la raison de notre espérance, pourquoi on est heureux, on peut le dire à cause de Jésus. Nous n'avons pas honte de Jésus, nous n'avons pas honte de celui qui s'est laissé crucifier pour nous, qui est mort sur la croix, mais qui n'est plus sur la croix, qui a été élevé dans une gloire aussi haute que son abaissement a été profond. Eh bien, l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son Esprit nous remplit de quoi? De force, de puissance. Pas une puissance charnelle, mais la puissance spirituelle dont nous avons tant besoin aujourd'hui, et nous remplit de puissance, de force, d'amour. Oh, que nous soyons des gens remplis d'amour. C'est pas les gens qui font peu de cas de la vérité, parce que l'amour se réjouit avec la vérité. On ne peut pas séparer l'amour de la vérité, mais que nous soyons connus par cet amour dont Paul a parlé d'une façon si merveilleuse dans le chapitre 13 des Corinthiens, c'est un amour qui supporte tout, qui endure tout, qui croit tout et qui espère tout et qui ne périt jamais. Je ne fais là que les citations de la parole. Il nous remplit de force, il nous remplit d'amour, et de sagesse, d'autres ont traduit, de maîtrise de soi, ou de sobre bon sens, être possédé par l'Esprit qui nous rend capables de traverser ce monde avec sagesse. Eh bien, que vous puissiez méditer sur ce mot d'ordre, et qu'il nous prépare pour le premier message sur l'Esprit de Dieu à la lumière des Écritures, et nous allons commencer par le voir à l'œuvre dans la création. Dieu notre Père, du fond de nos cœurs, nous te bénissons pour cette merveilleuse journée, pleine de soleil dans la nature, et nous voudrions pleine de soleil dans nos cœurs. Ô Seigneur Jésus, fais ce miracle par la puissance de ton esprit et que notre rencontre ne soit pas vaine. Pour la gloire du Père, au nom du Fils et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, mes amis, je vous souhaite bon appétit. Et nous nous retrouvons ici à 9h où vous pouvez, on vous délivrera pour les actifs.